Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
C'est la même équipe pour le même devoir et avec le même plaisir. Berry, Franklin, Luchaka est présent pour la partie info.
Georges Lasucrière de Kulungongo devrait débuter sa campagne de sucre dans une semaine, mais les habitants de la zone région menacent de le saboter. Nous appellerons Guy Roger Niapala à Matadi pour en savoir un peu plus.
C'est dans deux minutes et au Katanga, dans le nord, l'élevage de bovins prend de la vitesse. Reportage de Denise Maheu à suivre dans la seconde partie de cette émission. Et la visite de demain de Dominique Strauss-Kahn en RDC, le patron du FMI arrive dans un contexte de crise économique qui n'épargne pas la RDC. Nous recevrons dans quelques instants, dans 10 minutes très exactement, le professeur Chunzambiye. Il est professeur d'économie à l'université de Kinshasa. La Fédération des entreprises du Congo passe en revue l'année 2008.
Son assemblée générale est prévue pour demain. Les opérateurs économiques relèveront les défis, les effets de la crise économique qui les a frappés en fin d'année. La FEC s'appuiera probablement sur cette donne pour demander au gouvernement d'accélérer les mesures visant à assainir le climat des affaires au pays et c'est notamment l'ordre dans la perception des taxes par les services de l'État.
Et des portes des magasins et boutiques fermées à Fataki.
Nous sommes là à près de 90 km au nord de Bounia. Les commerçants dénoncent la recrudescence de l'insécurité dans cette région depuis plusieurs semaines. Selon le président du comité local de la FEC, cette fermeture entraîne déjà un manque à gagner énorme dans les activités commerciales.
Et de Fataki à Dilolo dans le Katanga, les commerçants se plaignent également.
Ils dénoncent la multiplicité des services de l'État affectés à la frontière avec l'Angola. D'après eux, en plus de 4 services autorisés, d'autres services tels que le territoire, le service des hydrocarbures, l'ANR, l'économie, etc. ont ouvert leur bureau à la frontière et perçoivent des taxes. Un des commerçants affirme par exemple que l'ANR fait payer à tout véhicule qui traverse la frontière 7000 francs congolais. Cette multiplicité des taxes influe sur les prix des produits importés d'Angola, précisent les commerçants.
La nouvelle économique au bout du fil.
Le téléphone sonne à Matadi où l'on retrouve Guy Roger Niampala. Guy Roger, l'association des ayants droit foncier de Kwilungongo menace d'empêcher la campagne de la sucrière de Kwilungongo qui commence en principe la semaine prochaine. Mais d'abord, est-ce que ces ayants droit sont influents?
Brièvement, écoutez Georges, eux-mêmes l'affirment, d'autant plus qu'ils ont signé différents accords avec l'entreprise. Ils disent avoir un mot à dire dans tout ce qui se passe dans cette contrée du Bas-Congo.
Et pourquoi veulent-ils bloquer les actions de la sucrière de Kwilungongo?
En tout cas, d'après le président de cette association de Kwilungongo, l'entreprise n'a pas respecté les clauses de leur partenariat, notamment en ce qui concerne l'engagement des jeunes de cette contrée. Les ayants droit avaient présenté le nom de 150 jeunes, leurs enfants et petits-fils sur les 1800 personnes prévues pour travailler dans les champs au cours de la prochaine campagne. Après la publication de la liste, les noms de leurs n'ont pas été repris. Voilà donc, Georges, selon le président, ils sont déterminés à saboter cette campagne.
Et que disent les autorités de Kwilungongo par rapport à cette menace des ayants droit fonciers?
Oui, Georges, j'ai échangé cet après-midi avec Monsieur Louis Mouinzeloa. Il est directeur du personnel à la sucrière de Kwilungongo. Il a déclaré que depuis un mois et demi, la sucrière a lancé un communiqué où elle avait besoin de 1200 travailleurs pour couper la canne à sucre lors de la prochaine campagne. L'entreprise n'a pas besoin des sélections ni de recommandations, a indiqué ce responsable de cette entreprise. C'est une simple intoxication, affirme Louis Mouinze. Ces gens, si ces gens essayent de perturber la campagne, ils seront confrontés à la justice, comme il a dit.
Merci Guy Roger pour ces précisions. Vous intervenez de Matadi où l'on nous suit en FM sur 103 MHz. Corrigez-moi si je me trompe.
Non, Georges, Radio Okapi est suivi à Matadi sur 102 FM.
Merci pour cette correction. Et le Bas-Congo, c'est l'une des portes de sortie pour l'extérieur du pays.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Un projet de raffinerie de 5 milliards de dollars au point mort, là nous sommes au Mozambique.
Ce projet a été suspendu, a révélé aujourd'hui la presse mozambicaine. Et pour cause, le retrait de l'un des principaux partenaires de ce dossier, le sud-africain Group 5 International, une entreprise des travaux publics qui se retire à cause de la crise actuelle du crédit. Cette raffinerie devrait produire 300 000 barils de jour et permettre la création de 450 emplois permanents. La seule raffinerie l'Angleterre du Mozambique a fermé il y a 24 ans.
C'est la fin de la semaine, Berry. Un regard sur le comportement des matières premières. D'abord, les métaux des bases avec très peu de profit.
Le cuivre a été le seul à vraiment prendre du terrain cette semaine. À Londres, une tonne de métal rouge pour livraison dans 3 mois vaut 4 580 $, soit 250 $ de plus que la semaine dernière. L'étain a réussi à redresser la barre ce vendredi et a fini en petite hausse. 13 750 $ contre 13 600 le vendredi dernier.
Le pétrole termine à 60 $.
Après avoir fait un pic de 62 $ en milieu de semaine, l'or noir passera son week-end à 60 $, mais la tendance reste à la baisse et le marché sera fermé lundi à Londres et à New York en raison d'un jour férié.
C'est l'or noir, mais l'or lui-même à présent.
Le métal précieux se rapproche de 1 000 $ l'once. L'once a grimpé jusqu'à 961 $, son niveau le plus haut depuis 2 mois. Le métal jaune a progressé tout au long de la semaine suite à une faiblesse du dollar.
Merci Berry pour ces infos économiques du monde. Si vous nous rattrapez sur Radio Capi, c'est Code Économie que vous suivez et sa seconde partie tout de suite qui se tourne vers le Katanga.
Écho reportage.
L'éco-reportage nous amène dans le district du Olomami, au Katanga. Après la chute en nombre de bovins dans les fermes de Moba, c'est le Olomami qui tente de sauver les secteurs avec près de 40 000 têtes de gros bétail. L'élevage de gros bétail contribue au développement du district, même si toutes les taxes payées par les grandes entreprises vont directement à la province, à Lubumbashi ou encore à Kinshasa. Reportage de Denise Mayo.
Le district du Olomami est le premier aujourd'hui au Katanga en termes du nombre de têtes de gros bétail qu'il compte. Deux grandes sociétés y sont opérationnelles, à savoir la grande compagnie d'élevage appelée Grelka et la pastorale dénommée Ferme Kiabukwa. Évariste Kazembe, inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage, donne des statistiques.
Par rapport aux statistiques de bétail que nous avons dans notre district, les grands élevages de Katangola qui disposent de 23 000 têtes de bétail. Nous avons deuxièmement la grande compagnie d'élevage du Olomami, la pastorale, qui dispose de plus ou moins 17 000 têtes de bétail. À côté de cela, nous avons le petit fermier qui se retrouve dans le territoire de Bukama, dans le territoire de Tabongo, dans le territoire de Kanyama, qui dispose plus ou moins de 3 000 têtes de bétail. C'est ça qui fait que, actuellement, nous disposons dans le district de Olomami plus ou moins de 40 000 têtes de bétail.
Pour la ferme, la pastorale Kiabukwa, les activités d'élevage des bovins ont progressé depuis 3 ans. La ferme ne connaît plus de problèmes d'exploitation. Makitu Katata, directeur général de Kiabukwa.
Nous n'avons pas de problèmes d'exploitation, mais nous avons des difficultés pour écouler notre production. Donc nous avons beaucoup de bêtes qui ne sont pas vendues depuis la fin de l'année passée. Le fait que beaucoup de sociétés minières ont fermé, principalement du côté des Kolwezi. Ensuite, nous subissons aussi le contre-coup des difficultés de l'amiba. Donc, actuellement, nous avons des très grosses difficultés de trésorerie. Nous ne savons pas très bien à partir de quel moment elle peut s'améliorer.
La ferme Kiabukwa vendait jusqu'à près de 1000 têtes par an. Une autre ferme opérationnelle dans le Olomami, celle-là plus petite, est celle de l'église méthodiste. Elle compte aujourd'hui près de 400 têtes. Celle-ci a deux objectifs, la reproduction et la promotion de l'attraction bovine. Timis Akabank, chargé du projet à l'église méthodiste.
Nous totalisons 460 têtes de vaches. Nous avons des succursales ailleurs à Kabulo Kisanga pour la reproduction. Mais pour l'attraction bovine, nous avons aussi quelques têtes de traction bovine à Kabongo, précisément à Kamungu. Donc au total, ça fait déjà 20 paires distribuées, donc 40 bêtes.
Reste qu'une politique sur l'élevage soit mise en place par les autorités pour promouvoir davantage cette activité.
Suggestions et réactions, n'hésitez pas. Un clic. Echo@radiookapi.net
Vous continuez à suivre Écho d'économie sur Radio Okapi. L'invité de l'économie, professeur Chunzambiye. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Kinshasa. Vous avez été aussi vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'était pour 3 mois. Mais vous avez été aussi commissaire d'État à l'économie à l'époque zaïroise. Professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Dominique Strauss-Kahn, le patron du FMI, arrive demain en RDC dans un contexte de crise économique qui n'épargne pas le pays. Quel autre enjeu y voyez-vous?
Il faut savoir que le directeur général du Fonds monétaire qui arrive, c'est un grand économiste, un professeur d'économie politique à l'Institut d'études politiques de Paris. Son arrivée ici coïncide, Dieu soit loué, avec un problème, à mon avis, très important.
Lequel?
Notre pays doit à la fois faire face à un service de la dette de plus en plus insupportable.
On parle de plus de 10 milliards.
Et en même temps, financer les infrastructures. Ce n'est pas développement sans infrastructures.
Alors,
comment concilier les deux? C'est-à-dire, comment obtenir à la fois l'allègement de la dette et obtenir également les financements pour les infrastructures économiques et sociales. C'est ça l'enjeu.
Et donc, les contrats chinois qui ne facilitent pas la conclusion d'un accord formel entre la RDC et les FMI depuis beaucoup de temps, est-ce que l'avenue de Dominique Strauss-Kahn pourrait aider à décanter cette situation?
La conclusion d'un accord formel entre notre pays et le Fonds monétaire international dépend bien sûr du problème des contrats chinois. Mais reconnaissons aussi que c'est depuis 2005, depuis la fin du PEG 1, que nous courons derrière ce programme formel avec le Fonds monétaire. À l'époque, on ne parlait pas encore des contrats chinois. Il faut savoir une chose, c'est que dans le cadre du contrat chinois, le pays doit emprunter à peu près, au départ c'était un problème de 9 milliards et demi de dollars.
Ouais.
Donc 3 milliards pour Sicomine, l'entreprise de joint venture qui doit produire les minerais, et 6 milliards et demi pour les infrastructures économiques et sociales. Comme ce sont des prêts, il faudra pouvoir les rembourser un jour. Alors la crainte, non seulement le FMI sert un peu de couverture. La crainte, en fait, est des bailleurs de fonds, qui disent, nous tendons à alléger votre dette d'environ 9 milliards.
Mais vous l'alourdissez.
Environ de 9 milliards sur le 11 milliards 800 millions que nous devons. Et entre-temps, vous voulez vous endetter pour 9 milliards auprès des Chinois. Rappelez-vous, c'est que le président Sarkozy avait dit à notre président lors de son séjour à Paris.
Ouais.
Mais c'est là que j'ai eu le problème.
Ouais, mais comment résoudre, c'est ça la question aussi.
Oui, je vous écoute.
Je dis comment résoudre, c'est ça la question.
Bon, comment résoudre cet écheveau? Je pense que il y a lieu de le résoudre. Comment? D'abord, pour que nous puissions obtenir l'allègement de la dette, il faut nécessairement passer par ce programme formel avec le fonds. Et pour que ce programme soit conclu, il y a deux problèmes. Il y a un problème technique, c'est-à-dire comment nous allons boucler nos finances publiques d'ici, par exemple, 2011. Et puis, il y a ce problème qu'on peut considérer peut-être comme politique, mais qui est quand même économique, celui de la soutenabilité de la dette extérieure après les conclusions, par exemple, de ce contrat chinois.
Alors, professeur, nous n'avons pas beaucoup de temps. Peut-être pour terminer, comment les autorités congolaises pourraient-elles rassurer le FMI sur cette affaire?
Il y a une étude de faisabilité qui doit démontrer que l'exécution de ce contrat chinois n'aboutira pas nécessairement à l'aggravation du service de la dette de notre pays. Mais cette étude de faisabilité, on l'attend depuis le mois de décembre de l'année dernière. Je pense que si cette étude démontre que malgré cet endettement qu'on va avoir avec les Chinois, et que cette dette sera soutenable. Je crois qu'à ce moment-là, le fonds n'aura plus de raison de dire non, vous ne pouvez pas vous endetter parce que le service de la dette ne sera plus soutenable.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous dans cette émission Écho d'économie. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. En tout cas, un vrai merci beaucoup, je rappelle. Vous êtes professeur d'économie à l'UNIKIN. Écho d'économie, c'est fini par ici. Merci de nous avoir suivis et à demain.